toujours à l'écoute du réseau FM+, troisième partie de notre émission, des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé. On vient d'entendre une manière de dire ces deux mots, hein, Michel, toujours en compagnie de Michel Théron.
Et oui, alors donc le titre c'est effectivement Fuir le bonheur avant qu'il se sauve, hein. Moi je vais citer simplement un passage de cette chanson, Croire au Dieu, même quand tout nous semble odieux, hein. Elle dit aussi se dire qu'il y a toujours over the rainbow, au-delà de l'arc-en-ciel, toujours plus haut le soleil above, vous voyez, hein, qui rime avec sauve, le soleil toujours, hein, radieux. C'est vrai que même quand le temps est gris, si l'on a vu le soleil une fois, on sait qu'il y est derrière, hein. Donc ce savoir nous empêche d'être désespérés par l'amorosité du temps. Donc elle incarne, cette chanson, à mon avis, un désir que rien de réel ne peut satisfaire pleinement, vous voyez. Et alors le paradoxe, c'est qu'elle est un peu comme Gribouille, celle qui chante, hein. Gribouille qui, par peur de la pluie, va se noyer, vous voyez, va se précipiter dans l'eau, hein. Refuser toute satisfaction, c'est ça le propre de l'amour platonique. Mais il faut comprendre le refus qu'il y a derrière cela. Il y a le refus de la matérialité, le refus de la banalité, de la de la modicité quotidienne en quelque sorte, hein. René Char disait « Obéissez à vos porcs qui existent, je me soumets à mes dieux qui n'existent pas ». C'est très beau ça, hein. Bon, peut-être que ce à quoi je crois n'a pas de sens, mais ce qui n'a pas de sens a un sens supérieur à ce qu'il y en a, vous voyez. Vos porcs qui existent, hein. Vivre et penser comme des porcs, c'est un texte de Gilles Châtelet, je crois, un essai, hein. Bon, c'est vrai, la consommation, tout cela, ou le sexe, hein. Eros dépasse largement la sexualité, hein. Marcus l'a montré dans L'homme unidimensionnel. La sexualité, c'est élémentaire, hein. Bon, Eros, ça élargit beaucoup plus, hein. La sexualité peut se faire, n'importe où, dans un décor sordide, dans une voiture, etc. Mais Eros, et ça je prends l'exemple de Marcuse, Eros élargit justement la pulsion à la contemplation. C'est pas la même chose de faire l'amour dans un pré avec toutes les fleurs autour de nous, les arbres agités par le vent, etc., et le faire dans une voiture. Vous voyez, c'est la différence entre Eros et le sexe, la sexualité. C'est deux choses différentes. Le sexe nous renvoie à ce que Marcuse appelle l'unidimensionnalité dans L'homme unidimensionnel, vous voyez. En fait, le désir, je dis souvent, la structure du désir est un désir de structure. Ça veut dire que le désir est ainsi structuré qu'il faut y trouver, comment dire, l'épanouissement, mais le mot encore, la fulgurance de sa manifestation en nous, vous voyez, hein. Voilà, alors après cette chanson très touchante, poignante, je trouve, nous allons terminer l'émission d'une façon plus légère, en parlant des projections qui sont dans le désir, hein. C'est la partie suivante de mon livre, toujours dans la grande partie Eros ou l'amour de désir, désir et projection. Alors vous savez, Redon, que quand on dit à quelqu'un « je ne te reconnais plus », mais tout simplement, c'est qu'on commence véritablement à le connaître, hein. Voilà, hein. Et la tragédie de beaucoup de couples qui se forment avec la seule passion ou le seul Eros pour base, et là, au début, on n'ose pas se regarder, et à la fin, on ne peut plus se voir, vous voyez. Je crois que c'est de Voss, hein.
Oui.
Ma femme et moi, au début, on n'osait pas se regarder, et maintenant, on ne peut plus se voir. Alors, c'est vrai que ne pas oser se regarder, c'est se condamner plus tard à ne plus pouvoir se voir. Ça, c'est évident.
C'est ce qui arrive souvent à certains couples. Arriver le moment de la retraite.
Absolument. Vous avez raison.
C'est vrai que l'absence fait en sorte qu'on s'attire comme des aimants et que tout d'un coup être présent, c'est-à-dire on a le sentiment de se marcher dessus.
Ah oui.
Et ça finit souvent
des
tensions énormes.
Ah oui, moi je l'ai expérimenté. La retraite, d'un certain point de vue, est une mort sociale, hein. C'est-à-dire que la persona, au sens jungien, le masque théâtral que nous portons sur notre figure n'existe plus. Et quand on se retrouve face à face avec l'être que l'on dit aimer ou que l'on a aimé, eh bien effectivement, comme dit Brassens, c'était pas une sinécure de lui voir toujours le nez au milieu de la figure. Vous voyez, voir tout le temps le nez au milieu de la figure. Bon, voilà. là, vous avez absolument raison. Alors pour ça, du bon usage de la retraite, il faut la préparer.
Du bon usage, il faut préparer sa retraite.
Il faut préparer sa retraite, voilà. Alors je prendrai comme dernier exemple une comparaison. Imaginons un tailleur qui a fait un costume pour son client. Le client vient dans la boutique essayer le costume, et le costume ne va pas au client. Qu'est-ce que nous dirions si le tailleur voulait tailler dans le client, modifier le client? Mais non, il faut au contraire qu'il retouche le costume, vous voyez? Et de même, alors pourquoi est-ce que nous reprochons à l'autre de ne pas être conforme à l'idée que nous nous étions fait de lui, en solitude, loin de lui, Nous devons, au contraire, retoucher le costume et réviser ce que nous avions projeté sur lui. Il n'est pas conforme à nos rêves, nous le constatons. Ben, à ce moment-là, retouchons les rêves. Et si on n'a pas cette sagesse qui consiste à adapter notre regard à ce qu'est l'autre objectivement, indépendamment du prisme diffractant à travers lequel nous l'avons vu au début, alors l'amour apparaîtra à la fin comme un mirage et pourra lui succéder à cet amour son exact contraire, c'est-à-dire le mépris. Voyez comment Emma Bovary en vient à mépriser son mari, un fort brave homme pourtant dans Madame Bovary de Flaubert. Elle lui trouve les doigts carrés, il mange trop vite, etc. Alors qu'elle est anorexique et elle s'amuse avec son couteau à faire des raies sur la toile cirée. Vous voyez, me revient ce détail dans le roman de Flaubert. Donc Emma Bovary est anorexique et elle voit son mari manger gloutonnement, s'empiffrer, comme on dit trivialement. Bon, et alors elle éprouve du mépris pour lui. Pareillement dans Anna Karénine de Tolstoï. Voyez ce que finit par penser Anna, l'héroïne, qui est une grande amoureuse. Je cite, elle n'éprouvait plus envers son mari que la répulsion du bon nageur à l'égard du noyé qui s'accroche à lui et dont il se débarrasse pour ne pas couler. Vous voyez? Alors, vous savez, Redouane, que le mépris, c'est le sujet d'un roman de Moravia, qui porte ce titre, ainsi que du film de Godard qui en a été tiré et qui est paru en 1963 avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Bon, alors, c'est aussi le sujet d'un film de Sam Mendes que je conseille à nos auditeurs, qui s'appelle « Les noces rebelles », qui est sorti en 2008. L'épouse en arrive à mépriser son mari, qui ne correspond pas à l'image idéale qu'elle s'était faite de lui dans les premiers temps de leur idylle. Alors évidemment, le mari ne comprend rien à ce revirement soudain. Aucun des deux ne reconnaît l'autre et s'enchaînent des scènes de reproches mutuelles sans qu'il y ait possibilité d'objective mise à plat de la question. Et hélas, c'est le sort pathétique de beaucoup de couples. Dans ce film, je crois que c'est Kate Winslet et puis Leonardo DiCaprio, les deux héros de Titanic, qui incarnaient justement un couple romantique et très uni, qui en viennent à se disputer dans le film de Sam Mendes, Les Noces Rebelles. Alors pour alléger un peu l'atmosphère, j'ai choisi une chanson assez amusante et, enfantine, de Bobby Lapointe qui s'appelle L'Ange, où l'on voit le danger des projections que nous pouvons faire sur les êtres que nous rencontrons.
Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. J'étais sorti dans la rue pour acheter des allumettes. Soudain, il m'est apparu, j'ai perdu la tête. Quand j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis, ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour passer inaperçu, il n'avait pas pris ses ailes, et tout d'abord j'avais cru une demoiselle belle. Mais j'ai vu dans ses grands yeux les doux reflets du paradis, ses grands yeux d'un bleu si bleu, le bleu du paradis. Pour vêtir son corps mignon dans un bout de blanc nuage, il s'était taillé jupon et gentil corsage. Sage, sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. De sa radieuse auréole s'était fait une ceinture, mais autour de sa figure voltaient boucles folles, drôles. Sur le trottoir, j'ai rencontré un ange descendu des cieux. Sur le trottoir, j'ai rencontré un bel ange aux yeux bleus. Soudain, passe un monsieur bien vêtu, mais gueule minable. L'ange a murmuré, tu viens? Combien? 500 balles. Diable. et tous les deux ils sont partis. Mon ange descendu des cieux, mon ange bleu du paradis, et le vilain monsieur.
Et voilà, on arrive à la fin de l'émission avec... ça change de Birkin, Bobby
ça
Lapointe.
Change beaucoup.
Mais en même temps, il y a une pointe philosophique dans cette chanson.
Absolument, il voit une très belle femme, il y voit une apparition séraphique, angélique, miraculeuse, et puis à la fin, il s'agit d'une prostituée sur le trottoir, vous voyez. Et donc, vous voyez les dangers des projections. Hein. Nous projetons toujours notre imaginaire sur les êtres, et parfois cela peut être désillusionnant au possible, hein. Et alors à la fin, c'est très enfantin. Bobby Lapointe est enfantin ici, il s'en va, il est parti avec le vilain monsieur, mais je crois qu'on peut y voir, comme vous disiez, un sens philosophique. Méfions-nous des projections, essayons de voir les êtres tels qu'ils sont et ne projetons pas notre imaginaire
d'où la désillusion. Merci Michel, on arrive donc à la fin de l'émission. Merci à la fois pour ces méandres de l'amour qui nous apprennent énormément de choses. On en est loin de finir, puisqu'il nous reste toute une série d'émissions. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours pour continuer ce chapitre qu'on a entamé aujourd'hui, et découvrir aussi de nouveaux chants, non pas liturgiques, mais musicaux, qui accompagnent de manière joyeuse, comme le fait Bobby Lapointe, les commentaires que vous nous apportez sur l'éros, ou l'amour, le désir, qui était aujourd'hui méandre de l'amour. Eros et Agapé, chez Dervy, à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir à tous.